Vous écoutez France Culture. Hors champ.
Hors champ, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce soir en compagnie de Alexandre Chemetov. Alexandre Chemetov, vous êtes architecte, paysagiste, et au fond, votre père est architecte. Il avait accepté notre invitation dans Hors-Champ il y a quelque temps et nous avait décrit avec passion sa manière de faire de l'architecture une véritable, finalement, remodelage de la ville. Et vous auriez pu suivre la voie de votre père, mais ça n'a pas du tout été ça, parce qu'au fond, on a l'impression que vous êtes un rétif, un insoumis. Et c'est finalement par l'école d'horticulture de Versailles que vous avez commencé à faire de l'architecture, si j'ai bien compris.
Oui, je pensais que c'était une manière de poser la question du territoire, du lieu dans lequel nous nous trouvions, d'une certaine manière de quelque chose qui me préoccupait ou m'intéressait d'ailleurs, qui était lié à la question de l'identité du pays dans lequel je vivais, c'est-à-dire de ce qui en faisait la singularité. Et il me semblait qu'il y avait autour de cette discipline du paysage quelque chose qui avait trait à cette question-là, à ce qui... à notre environnement, d'une certaine manière à l'écologie, aux équilibres, et puis en même temps à la fragilité de cet environnement, c'est-à-dire à son côté passager, éphémère. Et puis, je m'intéressais aussi à la géographie, voilà, et c'est ça qui m'intéressait. Mais étant à l'école, j'ai aussi découvert un monde beaucoup plus... conformiste au fond, conformiste et inattendu en même temps, c'est-à-dire qu'on était dans une école à Versailles qui était tout à fait tournée vers le passé, et puis en même temps se trouvait...
Dans les jardins du roi.
Oui, et en même temps se trouvaient là des gens qui étaient tout à fait anticonformistes et qui... Et comme Michel Corajou, par exemple, qui avait été mon professeur et qui... posait le monde comme le sujet du travail qu'on avait à faire, quoi. On découpait les journaux, les actualités, les images, et on se disait que c'était là la matière de notre travail, quoi. Et donc on était très loin de l'horticulture et très proche de ce qui faisait au fond mes centres d'intérêt, la photographie, le repérage... la promenade, la découverte. Voilà. Et c'est comme ça que je suis rentré, c'est par cette porte-là que je suis rentré dans la ville, dans l'architecture, et dans le paysage aussi. Enfin, par la porte du paysage, on peut dire.
Et vous avez été le premier à créer en France le Bureau des paysages.
Oui, c'était avec mon ami Rémi Deroche. Je me souviens, on avait fait un voyage en voiture entre Reims et Paris sur l'autoroute et on cherchait un nom. Et j'aimais bien cette sorte de contradiction comme ça entre l'idée un peu conformiste du bureau et puis l'idée qu'un bureau pouvait s'ouvrir sur le paysage, quoi. Et on traversait ces plaines assez belles ces mouvements comme ça du bassin parisien qu'on coupe. Donc, lorsqu'on prend l'autoroute entre Reims et Paris, et voilà, on était d'une certaine façon dans le bureau des paysages. Enfin, c'est comme ça qu'on l'avait perçu, dans ce rapport au paysage qui passe par la qu'on voit se découper comme ça dans au travers du pare-brise de la voiture, comme une sorte de travelling en avant, une sorte de mouvement cinématographique comme ça, avec la musique, la radio, enfin. Du coup, voilà, c'était comme une sorte de cinéma permanent, et une manière de se dire que, encore une fois, ce monde-là, c'était véritablement le sujet du travail. Et donc le bureau des paysages, c'était une façon de dire, le bureau est placé là, il est dans le monde d'aujourd'hui, quoi.
Vous venez de dire la discipline du paysage, qu'entendez-vous par là ?
C'est-à-dire que pour moi, c'est une sorte de culture, quoi. On peut se dire qu'il y a plusieurs façons de pratiquer un métier. On peut construire des maisons, donc on peut se dire qu'on fait de l'architecture, on peut se dire qu'on assemble des matériaux, on peut se dire qu'on s'occupe du confort, on peut se dire qu'on fait attention au site. Mais il y a dans la culture du paysage quelque chose qui rassemble tout en un seul lieu, c'est-à-dire comme si tout était réuni, quoi. Et cette discipline-là, elle est d'une certaine façon celle qui ne divise pas les choses, mais qui parle de de la façon dont elles interagissent les unes sur les autres, comme si les actions n'étaient pas isolées. Les pensées n'étaient pas isolées, elles étaient d'une certaine façon reliées. Elles vivaient ensemble, elles interagissaient les unes sur les autres. C'est en ça que je me sens assez proche de ce point de vue-là de la question de l'écologie, enfin de la manière de travailler les équilibres.
Est-ce qu'un paysage peut continuer à s'imposer ? Où est-ce qu'il y a besoin, et vous avez été justement à la pointe émergente de cette nouvelle génération d'architectes paysagistes, est-ce qu'il y a besoin maintenant de ces architectes qui par définition sont aussi des paysagistes pour imposer le respect qu'on doit aux paysages ?
Je ne sais pas s'il faut respecter les paysages, d'une certaine façon il faut les regarder, et puis d'une certaine façon il ne faut pas faire de paysage.
Comment on apprend à regarder un paysage ?
On apprend à regarder un paysage en imaginant comment on le transforme, c'est-à-dire que c'est le fait de s'y projeter d'une manière libre en imaginant qu'il va changer, et qu'on apprend aussi à le regarder. Par exemple, en ce moment, on travaille à Bordeaux sur une question qui est celle de la construction de logements sur le territoire de l'agglomération bordelaise. Et on a été amené à repérer des situations favorables pour construire des logements. Et pour que, construisant les logements dans lesquels chacun pourrait trouver un espace pour vivre, un appartement, une maison, quelques éléments de confort essentiels. En même temps, chacun de ces appartements, chacune de ces maisons soit située dans ce grand territoire de l'agglomération bordelaise, qui est plus qu'une ville, qui est fabriquée ou qui est constituée pour moitié de construction, d'aménagement, et pour d'autres moitiés de territoires encore agricoles, de vignes parfois. Et ce qui est très particulier, c'est qu'on se rend compte que ces infinies différences, au fond, qui font aussi la qualité qu'on apprécie pour les vins ou pour la qualité des crus. Alors, quand on parle de la ville, on cherche plutôt l'unité, ou ce qui va permettre de réunir, au fond, les habitants de l'agglomération. Et on a fait le pari de se dire que cette culture des différences pourrait peut-être être ce qui permet aux gens de ne pas craindre la transformation de leur cadre de vie. Ou de se dire plus exactement qu'il y a dans une culture de l'identité des lieux quelque chose qui permet de faire qu'on n'ait pas à craindre le changement, mais qu'on puisse au contraire l'espérer. Mais pour ça, il faut qu'on cherche des correspondances d'une certaine façon entre ce qui est là et la manière dont on se projette dans les lieux. Et se dire peut-être que la qualité qu'on peut repérer d'un site à Pessac, ou par exemple, pour prendre cet exemple, à côté de la gare de l'Alouette, le long de la ligne qui va de Bordeaux à Arcachon, qu'on pourrait construire là comme on ne construit pas ailleurs. Et que peut-être qu'on pourrait trouver une correspondance, au fond, entre les bâtiments qu'on projette les qualités du site qu'on découvre, comme s'il y avait une correspondance entre le lieu qu'on repère et la manière dont on imagine sa transformation. Et faire en sorte que s'il y a plus de monde pour habiter l'endroit qu'on apprécie quand on le découvre, eh bien, les nouveaux venus, les habitants qui vont venir dans cet endroit, puissent à leur tour partager à plus nombreux, d'une certaine façon, la singularité qu'on aura pu repérer dans le lieu qu'on aura découvert, quoi. Et c'est cette correspondance qui m'intéresse. Et
d'une certaine... votre métier, au fond, Alexandre Chemetov, c'est un métier de rêveur qui concrétise la réalité de ses rêves.
Oui, on peut dire ça. On peut dire qu'il y a une part de rêve ou de liberté qui est donnée très paradoxalement par une très grande attention au lieu. Comme si en faisant un projet, c'est-à-dire en construisant quelque part, en transformant même radicalement un endroit, on apprenait du lieu dans lequel on construisait. Et c'est à ce moment-là qu'il y a un rapport de ce qui fait qu'on n'est pas en train de reproduire quelque chose, mais d'une certaine façon de le traduire. C'est-à-dire que moi j'étais assez sensible à ce que disait quelqu'un comme Armand Robin sur la traduction, en disant que c'était justement une vraie création.
Alors il faut que vous expliquiez qui est Armand Robin, parce que c'est une grande figure de la radio, mais aujourd'hui trop méconnue.
Oui, puis c'est un poète, et puis il a traduit des poètes russes, et quand il traduit des poèmes d'Alexandre Bloch, par exemple, il dit qu'il les réécrit, c'est-à-dire qu'il les réinvente d'une certaine façon. Il y a et c'est en les réinventant que, d'une certaine façon, il est fidèle à la langue d'origine. C'était un poète polyglotte. Effectivement, qui traduisait, qui écoutait les radios du monde entier et qui entendait ces sonorités. Et son travail est un travail sur, non pas la traduction, mais la recréation, au fond, d'un univers. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire qu'il y a un parallèle entre l'extrême attention qu'on peut porter à des lieux, d'une certaine façon, l'intimité qui peut se créer entre un site et la façon dont on le découvre, et en même temps, la nécessité de le transformer radicalement. Et c'est ça parce que je crois que ça correspond profondément à une grande inquiétude, au fond, qui traverse ce pays, où on a le sentiment qu'on est en train de perdre quelque chose sans cesse. Et on voit bien que cette inquiétude se traduit parfois d'une façon très négative, violente. Les dernières élections en apportent une preuve tout à fait palpable et flagrante, quoi. Et donc, pour moi, mon métier, c'est quelque chose qui a à voir, vous disiez, avec le rêve. Et en même temps avec cette réalité-là, c'est-à-dire de se dire le travail sur la ville, le travail sur notre environnement, ce que lorsqu'on parcourait les territoires bordelais, le maire de Bègles appelait le revenu en nature, c'est-à-dire la possibilité pour les gens qui habitent un endroit d'habiter un endroit avec plaisir, c'est-à-dire de tirer avantage de l'endroit dans lequel ils sont. Et même pour quelqu'un ou une famille modeste, de se dire que la qualité du lieu de vie quotidien, de la maison, de ses prolongements, de la rue, de la petite rivière qui passe au bout du jardin, etc., que tout ça, c'est quelque chose qui permet d'une certaine façon, qui fait société, c'est-à-dire qui parle de la manière dont on peut vivre ensemble, quoi. Et de ce point de vue-là, j'étais très en affinité avec le livre qu'a écrit Jean-Christophe Bailly qui s'appelle « Le dépaysement ». Parce qu'il part précisément de cela, quoi. Il part précisément de cette correspondance entre une attention au lieu, la manière dont il décrit d'ailleurs tous les voyages qu'il fait au travers de la France, comme ça, et le fait que les choses changent et qu'on peut accueillir ce changement avec optimisme et avec intérêt, et que l'attention à ce qui fait la qualité des lieux est le contraire d'un repli identitaire et en fait une ouverture vers le monde. Et c'est cela qui est au centre, pour moi, de la question de la ville, de l'architecture, du cadre de vie, enfin, pour employer des formules un peu banales. Et ce qui me frappe beaucoup, c'est que cette question est singulièrement absente du débat politique. Et j'ai l'impression qu'il y a dans une culture comme ça qui lie la géographie, une certaine idée de la liberté. On pense évidemment à quelqu'un comme Élisée Reclus. On pense à cette tradition-là, enfin, ou à cette, j'allais dire presque à cette école géographique française qui lie géographie et histoire et qui en même temps est liée à l'idée du progrès, à l'idée du changement et à la question de savoir comment on peut se retrouver ensemble. Et ce qui m'intéresse et ce qui fait que je travaille sur des sujets assez librement et que je ne me laisse pas enfermer dans les disciplines, c'est que d'une certaine façon, le sujet, pour moi, le sujet, c'est celui-là, quoi. Comment on peut arriver à faire que la France, pour parler du pays dans lequel nous vivons, avec ses différences, avec ses évolutions, avec ses changements, puisse être véritablement une source de bien-être ensemble et une source de liberté. C'est-à-dire comment on peut inventer à partir de situations, de parcours, une diversité qui correspond aussi à la diversité de la manière qu'on peut avoir d'habiter ce pays.
Vous avez évoqué l'importance de la poésie à l'intérieur de votre parcours d'architecte paysagiste, Alexandre Chemetov. Nous allons écouter Francis Ponge, qui va lire un poème intitulé « La fenêtre ». C'est une archive du 31 août 1988.
Harem nombreux du jour, humiliant tribu, niche au ciel vouée, à raison d'un millier par rue. Ô préposés aux cieux avec vos tabliers. Bleue contusion, ecchymose, fantômes immobiliers, appareil du faux jour et de l'imparfaite réflexion, foyer d'ardeur de flammes froides, nouvel âtre, atténuation au possible des murs, au fond de chaque pièce de toute habitation se doit au moins une fenêtre, en soie de paravent un foyer d'ardeur de flammes froides, de douce et plaintive harmonie, le corps plaintif d'une femme de barbe bleue le jour, il giorno. Par ton corps en quartier, à bras le corps tenu, tu subis une passion à intempérie. Ô punch, ô ponche, ponche dont jour et nuit flamboie la barbe bleue. Détenu au fond de chaque pièce sous une penderie par l'hôte dont les soins opposés à la nue t'auront le temps qu'il vit lavé, entretenu, réparé sans cesse, maintenu. Par le propre maçon, porte aux ruines ouvertes. Sous un voile, tu as poings liés sur le milieu du corps et de grands yeux élargis jusqu'à l'extrême cadre de ton corps. Lorsque d'un tour de main je délie ta poignée, ému, intrigué, lorsque de toi je m'approche, je t'ouvre en reculant le torse comme lorsqu'une femme veut m'embrasser. Puis, tandis que ton corps m'embrasse et me retient, que tu rabats sur moi tout un enclos de voiles et de vitres, tu me caresses, tu me décoiffes, le corps posé sur ton appui, mon esprit arrive au dehors.
Impressionnant, hein? Comment Francis Ponge nourrit-elle votre pensée du corps dans l'espace? Parce que c'est aussi ça, être architecte.
Oui, alors là, moi j'avais... il avait aussi écrit La fabrique du pré et raconté comment, avec des mots, on pouvait créer une étendue de terre et d'herbe. Et puis il avait fait ces descriptions très, très belles d'un paysage sous la pluie, de la pluie, et racontant comment après la pluie, l'eau continuait d'ailleurs à tomber le long des façades. Et puis j'aime bien sa voix et une certaine retenue, c'est-à-dire qu'à la fois des grands élans comme ça, et puis en même temps, une manière de se tenir un tout petit peu en retrait, ou apparemment en retrait. Et je trouve que cette posture est extrêmement intéressante, c'est-à-dire une forme de... parce que là, dans la lecture qu'il faisait, à la fois on est dans une très grande intimité, et puis en même temps dans une sorte de distance, quoi. Et c'est ce trouble-là qui est créé dans à la fois cette maîtrise de la langue et en même temps parfois comme ça une espèce d'entrechoc des mots. Et je trouve ça très fort. Et ça pose assez justement la question du style. C'est-à-dire que la question qu'on se pose... Quand on dessine un immeuble, une rue, c'est-à-dire qu'est-ce qui, d'une certaine façon, comment faire œuvre sans une manière à la fois libre, retenue. Qu'on ne percevrait peut-être pas tout à fait du premier coup d'œil, qui se laisserait découvrir et qui, à un moment donné, serait de nature à créer une émotion. Et on voit bien que c'est très compliqué, d'une certaine façon, et que ça suppose d'être dans une forme d'élan et de retenue en même temps. Et je trouve que je suis content que vous ayez choisi Francis Ponge, parce que pour moi, il représente très exactement ce qui m'intéresse, ce que j'admire chez lui, c'est-à-dire cette manière de se saisir d'une certaine forme de banalité, les pommes de terre, et en même temps d'arriver à faire que cette banalité devienne véritablement de l'art, quoi. C'est-à-dire se transmue comme ça par la grâce des mots, de la parole, de la langue, de la sonorité des mots. Là, on entendait les ponches. Comme son nom d'ailleurs, et puis comme on pense à Pouchkine, on pense à la flamme bleue du punch le matin. Donc, et pourtant, il ne fait qu'évoquer la sonorité de ce mot, le répéter, le prononcer de diverses manières. Il est en lui-même extraordinaire parce que de toute façon, à ce moment-là, le mot « ponche » devient quelque chose d'étonnant. Et voilà, c'est exactement ce qui m'intéresse dans les assemblages, dans la manière de transformer les choses, de les faire apparaître d'une autre façon. Par exemple, à Saint-Étienne, sur le long de l'axe principal de Saint-Étienne, qui suit le cours de cette rivière qui s'appelle le Furan, qui se dirige vers la Loire, sur cette route qui s'appelle précisément la route de Roanne, puisque c'est celle qui descendait vers la Loire à Saint-Étienne. On est en train de transformer la manufacture d'armes, l'endroit où on fabriquait les fusils FAMAS, ce qui veut dire fusil d'assaut de la manufacture d'armes de Saint-Étienne.
Mais c'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on n'a plus besoin d'armes. Là.
En tout cas, on n'en a plus besoin là. Et à cet endroit où on fabriquait des fusils, des armes, etc., dans cette manufacture d'État, implantée sur le cours de cette rivière du Furan, on transforme une aile de ce bâtiment, qui était l'imprimerie, en une crèche pour partie, en une école de journalisme pour une autre partie,
des bureaux.
Et vous voyez, on visitait cet endroit avec le maire de Saint-Étienne, Maurice Vincent, et son adjoint, qui s'appelle Florent Pigeon. Et il me disait, c'est exactement comme ça qu'on a envie de prendre la question du patrimoine, c'est-à-dire d'une façon à la fois attentive et libre, et de faire que on soit dans une réinterprétation des lieux. Donc on a par exemple creusé à l'intérieur du bâtiment, en enlevant le toit, le jardin dans lequel les enfants de la crèche vont jouer. On a recréé sous le toit, qui est comme une sorte de grande tente à l'intérieur du bâtiment, les différentes parties de cette école de journalisme. On a créé des passages au travers le bâtiment qui sont comme des porches, comme ça, qui permettent de traverser ce très long bâtiment qui fait 230 mètres de long. Et tout le travail qu'on fait, c'est un travail à la fois d'attention, de transformation très forte, d'architecture. J'aimais bien ce livre écrit par Bernard Rudowski qui s'appelait « Architecture sans architecte », qui était une façon de montrer que, d'une certaine façon, il fallait faire de l'architecture sans être trop architecte, quoi. C'est-à-dire, et pour revenir à Francis Ponge, c'est comme de dire qu'il faudrait faire de la poésie sans être trop poète, ou faire de la littérature sans être trop littérateur, quoi. Et donc, c'est ce qui m'intéresse dans cette pratique libre d'un métier qu'on pourrait qualifier d'une manière générique d'architecture, et dans lequel on essaye avec mon équipe, qui fonctionne un peu comme une petite troupe...
De théâtre.
Voilà, de jouer au fond, où chacun joue des rôles différents, et où ensemble on joue cette espèce de pièce de la transformation des lieux, quoi. Et puis c'est intéressant parce qu'un chantier... C'est aussi un lieu sur lequel il y a une création et les ouvriers, les compagnons qui construisent ne sont pas là pour exécuter les choses. Ils sont là pour les interpréter à leur façon. Et donc on est tout à fait dans cette ambiance du théâtre au fond, et puisqu'on est à Saint-Étienne sur les traces de Jean d'Asté, et ce qui m'intéressait quand on lisait justement la...
Jean d'Asté qui a été le premier à construire la compagnie théâtrale de décentralisation.
Oui, et puis justement où il raconte comment les...
Donc vous décentrez vous aussi,
oui,
sans arrêt.
Oui, les acteurs qui s'occupaient à la fois d'aller faire les courses, de faire la cuisine, de répéter, etc. Et c'est au fond cette idée qu'il est nécessaire de déplacer aussi les activités quotidiennes pour les repenser au fond et de sans cesse franchir la limite entre justement la sphère intime et puis l'engagement. Et j'aime bien ces ambiguïtés ou ces frontières qui sans cesse transgressées, quoi, entre les choses.
Alors j'ai sous les yeux une revue qui s'intitule « Patrimoine commun ». C'est votre leçon inaugurale de l'école de Chaillot prononcée le 26 janvier 2010. Et vous écrivez à propos du travail que vous faites... à Bordeaux, et notamment plus particulièrement autour de Blanquefort, vous dites, vous parlez du terroir. Et c'est très intéressant ce que vous dites du terroir, parce que c'est un mot qui est galvaudé, c'est un mot qui est méprisé, c'est un mot qui est teinté politiquement. Et vous, vous dites, Alexandre Chemetov, le terroir, mot terriblement ambigu, réactionnaire, difficile à utiliser, auquel on prête tous les mérites quand il s'agit du vin, devient une véritable infamie quand il s'applique à l'urbanisme. Les services de la communauté urbaine n'ont en effet de cesse que de tout unifier. Les candélabres, les routes, les passages cloutés, les pistes cyclables, les directives architecturales, les règlements. Entre la décision d'entreprendre un projet et la possibilité de le réaliser, il y a désormais un filtre, une organisation extrêmement efficace qui, au nom de l'unité d'un territoire administratif, fait qu'une idée n'arrive jamais vraiment à toucher son but. Et à l'intérieur de cette conférence, vous avez parsemé cette conférence de photographies. Et ces photographies montrent, par exemple, la Seine près du port à l'anglais à Vitry-sur-Seine, et on a envie de se baigner dans cette Seine-là, montrent une ferme abandonnée, la ferme La Bonne, montrent des endroits, entre guillemets, qu'on dirait par les architectes, déshérités. Et on a l'impression que c'est ces endroits-là qui vous intéressent.
Oui, parce que, par exemple, c'est vrai que pour moi, si en parcourant, par exemple, la banlieue parisienne, en allant à bicyclette au pont du port à l'anglais, j'ai l'impression que est contenu dans cette scène qui est montrée là, où on voit une famille en train de pique-niquer le dimanche au bord de l'eau, quelque chose qui est comme une sorte d'Eldorado du dimanche, pour reprendre cette expression, c'est-à-dire la possibilité du bonheur, tout simplement. C'est-à-dire que ces territoires qui sont toujours regardés un peu du centre des villes, en regardant d'une façon souvent condescendante vers la périphérie, comme si passait la limite du périphérique, on n'était plus dans l'histoire, on n'était plus dans la possibilité d'une vie agréable. Eh bien, cette image du pont du port à l'anglais, elle m'avait saisi pour ça. C'est-à-dire qu'il y avait là une famille installée au bord, sur le quai, enfin sur la rive de la Seine, sous les arbres, en train de pique-niquer un dimanche en regardant au fil de l'eau, quoi. Et là, il y avait quelque chose qui m'avait, voilà, que j'aime infiniment, parce qu'il y a dans cette scène beaucoup de simplicité, presque pas d'aménagement. Presque pas d'afféterie, on pourrait dire. Et tout ce qu'il faut en même temps. Tout ce qu'il faut est là et qui pourrait faire que ça devient de nouveau possible. Et la ferme La Bonne, la communauté urbaine de Bordeaux l'avait achetée. Et le maire de Blanquefort, Vincent Feltès, qui est en même temps président de la communauté urbaine, m'a dit, il y a une chose terrible, c'est que pour pouvoir payer le prix de l'acquisition de cette ferme, il va falloir la démolir, parce que le nombre de logements qu'on doit construire sur ce terrain est tel qu'on ne va pas pouvoir garder la ferme. Et donc on a dit, mais voilà, on pourrait essayer quelque chose, c'est de garder la ferme et de construire le nombre de logements. Et on s'est mis, parce qu'il y avait une porte sur cette ferme La Bonne, et sur cette porte était écrit par les enfants de la famille La Bonne, donc qui possédaient cette ferme. Cette ferme nous appartient et ne sera jamais à personne sauf aux La Bonne. Et donc quand j'ai vu ce slogan, en quelque sorte, écrit par les enfants de la famille, je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Il y a quelque chose, il faut garder la ferme et puis en même temps faire les 35 logements. Parce qu'il est heureux qu'il y ait de nouveaux habitants qui viennent et que dans la cour dans lequel ils habiteront, il y a toujours la ferme, la grange, et cette porte en bois sur laquelle les enfants avaient écrit cette phrase. Et donc on a cherché autour des délaissés de terrain, des terrains qui n'étaient pas utilisés, appartenant à la ville, le long d'une piscine Canton, il y avait un petit délaissé de terrain, le long d'une rue, une autre maison qui avait été aussi achetée, et une rue qui devait être frappée d'alignement.
Donc les délaissés de terrain, dans votre vocabulaire, ça veut dire qu'on peut y construire.
Oui, ces personnes n'avaient jamais imaginé y construire, mais en fait, ça appartenait à la ville ou à la communauté urbaine, et on pouvait y construire sans avoir à acheter le terrain. Et donc, ça permettait de garder la ferme, de la transformer elle-même. Il y avait un appartement qui était destiné aux jeunes mariés dans cette ferme. Quand il y avait des jeunes mariés dans la famille La Bonne, ils venaient transitoirement habiter là. Et donc on s'est dit, mais voilà, on peut recréer la maison des jeunes mariés pour faire un petit appartement et puis construire les 35 logements tout autour. Et on voit bien comment, en travaillant à cette question, c'est-à-dire en se servant du site, de ses contingences, de son histoire, et puis en même temps en prenant en compte le programme, la nécessité de faire des logements, on pouvait faire en sorte que tout se rejoigne d'une certaine façon, au lieu de se diviser. Ce que je dis sur le fait que les idées n'arrivent pas à leur but, c'est que les choses sont aussi trop divisées entre ceux qui choisissent les terrains, ceux qui écrivent le programme, et ceux qui sont chargés d'aménager, ceux qui sont chargés de construire, etc., etc. Et si vous voulez, tout d'un coup, quand on se sert du site pour reformuler le programme et se dire, en visitant les lieux avec le maire de la commune, voilà, il faut garder la ferme, il faut construire les 35 logements, comment fait-on ? Comment fait-on pour qu'on n'augmente pas le coût de construction de ces 35 logements ? Et comment fait-on aussi pour garder la ferme et puis pour la réaffecter aussi à de nouvelles fonctions ? C'est-à-dire d'imaginer que, oui, les choses vont changer, il est heureux qu'elles changent, quoi. Et en même temps, en changeant, on va pouvoir, pour quelqu'un qui reviendrait revisiter le lieu après 10 ans d'absence, il pourrait reconnaître l'endroit et reconnaître comment cet endroit a été transformé, et voir que de nouveaux habitants sont là, et que d'une certaine façon, il y a un lien qui s'est créé autour de ce projet, entre ce qui existait et l'état futur, quoi. Et voilà, et dans cette histoire-là, je pense qu'il y a beaucoup, c'est qu'on avait, on avait appelé cette expérience « situation construite », en reprenant ce vocable, en le détournant d'ailleurs un peu de son sens originel, pour construire effectivement une situation et faire que la situation donnée, ce qu'on peut repérer, devienne en quelque sorte le programme de la transformation et du changement d'un lieu.
Nous allons écouter la voix d'Agnès Varda. Elle va nous parler de sa définition du cinéma, et cela rejoint peut-être votre définition de l'architecte, votre redéfinition de l'architecte. C'est une archive du 29 juin 1998.
La beauté de la vie, et c'est la beauté du cinéma si on l'attrape. Parce que le cinéma, c'est un essai d'attraper ce que la lumière nous offre, c'est-à-dire des instants qui changent. Il arrive que le temps qu'on demande à l'opérateur, c'est déjà trop tard. Combien de fois j'ai été frustrée sur des tournages ? Parce que la lumière, la plus belle qui correspond à ce qu'on veut raconter à ce moment-là, à ce qu'on ressent, hop, le temps d'eux, c'est trop tard. Donc ce sens-là de l'instant fait que c'est comme ça que j'ai une vie très vivante, parce que c'est vrai que j'aime chaque instant. Et pourtant, je suis dans une sorte de mélancolie chronique depuis que je suis petite, qui cohabite parfaitement avec ça, et qui ne me fait pas souffrir. Donc je ne peux pas me décrire sinon que comme une sorte de contradiction, de même qu'on a dit en riant « dedans, dehors ». Dehors, dedans, j'aime être dehors, j'ai envie de rester dedans, j'aime être dedans et j'ai envie de sortir, comme les chats d'ailleurs. Dès qu'on leur ouvre la porte, ils sortent et ils reviennent gratter pour rentrer, et ils n'arrivent pas à se décider s'ils sont mieux dehors que dedans. Et je le ressens très fort, et ça fait pas allégorie, mais c'est la même chose de ce que je disais de l'ombre et du soleil. J'arrive pas très bien, j'aime les deux, mon capitaine, et je voudrais que le cinéma que j'essaie de faire pour faire passer des vibrations, des impressions, des sensations, et pas des psychologies, des histoires, des romans, des sensations, des perceptions, et quelque chose qui est palpable. Je ne fais pas un cinéma réaliste, je voudrais qu'il ait la texture de la réalité. Je ne fais pas du documentaire, je voudrais qu'il soit documenté. Et je voudrais, et je l'ai réussi des fois, pas dans tous mes films, que justement dans des films de fiction, qui sont perçus comme tels, joués par des gens qui racontent quelque chose en quelque sorte, on sente cette espèce de matière de la vie, cette texture, du crépi qui décrépit, du pain qu'on mastique, du bruit des souliers sur la terre ou sur le macadam ou sur du gravier, c'est-à-dire les bruits, la texture, la beauté de la réalité, même dans les pires histoires, même dans la tristesse.
J'ai l'impression que vous avez beaucoup de points en commun, tous les deux.
C'est vrai, oui. Je me reconnaissais dans ces propos sur la... Oui, cette façon de parler de la réalité, de la difficulté d'ailleurs à la saisir, et puis cette façon de jouer avec le réel, au fond, d'une façon assez libre, quand effectivement un peu comme un chat qui est dehors et dedans, comme elle le dit si bien.
Et vous habitez où ?
Moi, j'habite à Gentilly, dans l'endroit où je travaille aussi.
Un endroit que vous avez construit ?
Oui, dans le fond d'un jardin, dans une petite serre.
Voilà. Alors, on retrouve l'école d'horticulture.
Oui, d'une certaine façon. Et puis en même temps...
Et vous avez un jardin potager ?
Pas très potager, non, mais assez... C'est un endroit assez beau parce qu'on est sur le coteau de la Bièvre. Et puis le mur du fond du terrain dans lequel est implantée l'agence et dans lequel je campe en quelque sorte, c'est le soutènement de l'aqueduc de Médicis qui apportait l'eau au jardin du Luxembourg en venant du carré des eaux à Rungis. Et donc, voilà, on est dans l'histoire, on est dans la géographie. On est aussi dans le premier endroit qui a été relevé en France par Cassini pour faire la carte, la première triangulation qui va de la pyramide de Villejuif à la pyramide du Parc Montsouris et à l'Observatoire de Paris, où arrive justement la Duc de Médicis. On est sur le chemin qu'empruntait Robert Doisneau pour faire les photos de la banlieue parisienne, puisque sa première commande lui a été passée par le maire de Gentilly, qui était son oncle, je crois. Et puis, on est sur le chemin qu'empruntaient aussi Pierre et Marie Curie, entre leur laboratoire de la rue d'Ulm et celui d'Arcueil, où ils se livraient à leur... expériences. Et puis on est sur le chemin aussi qu'empruntait Eric Satie quand il rentrait chez lui à Arcueil. Donc vous voyez qu'on est dans la banlieue et puis en même temps on est au cœur d'une histoire, on est dans une autre réalité de cette banlieue. On est aux marges de la ville, on est dans le contraire du Grand Paris, si vous voulez. On est dans un lieu de culture, dans un lieu de connaissance, comme ça. On est le long de la Bièvre, décrite par Huysmans ou par Ronsard. On est d'une certaine façon ailleurs. Et on est dans un endroit qui ne se laisse pas saisir au premier coup d'œil. Et qu'on pourrait trouver franchement laid. Et qui en même temps est singulièrement beau.
Ben merci Alexandre Chemetov. Et continuer à redéfinir les lignes de force et les lignes de tension de ce que veut dire être architecte aujourd'hui.
Merci.
Merci Alexandre Chemetov, merci à vous et bon courage pour tous vos projets partout en France. Merci à toute l'équipe de Hors-Champ, Philippe Baudouin, Bruno Martin, Didier Lagarde, Brigitte Bouvier, Catherine Parent, Anne-Vanessa Prévost. Vous écoutez France Culture, dans quelques secondes, les ateliers de la nuit.